Alors, je suis ravie d'accueillir ce soir Jean-Pierre Lebrun à Bordeaux. Je le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Jean-Pierre Lebrun est psychiatre et psychanalyste à Namur, en Belgique. Il est membre de l'Association Freudienne Internationale, dont il a été le président. Il a écrit de nombreux livres qui interrogent les conséquences de l'évolution de nos sociétés, qu'on peut dire post-modernes ou néolibérales. Et on peut dire qu'il a renouvelé, relancé ce débat sur lequel, en un sens, d'autres auteurs s'étaient déjà penchés, comme finalement Reich, Marcuse, Fromm, Althusser, Gérard Mendel, Eugène Henriquez, Serge Leclerc, etc., le groupe psychanalyse et politique. Il s'y était aventuré, mais sans parvenir à un large écho parmi nos contemporains, semble-t-il. Ce n'était sans doute pas encore le temps. C'est d'ailleurs une première question. Est-ce que ces travaux nourrissent ta réflexion? Qu'est-ce qui a changé entre eux et nous? Alors, Jean-Pierre Lebrun a publié de nombreux livres. Je vous en cite quelques-uns. Un monde sans limite, La perversion ordinaire, Clinique de l'institution, Rien n'est plus secret qu'une existence féminine. Bon, il est très difficile à trouver.
Il est épuisé.
Avons-nous encore besoin d'un tiers? Et puis ensuite, des livres en tant que co-auteur. L'homme sans gravité avec Charles Mellement, Les désordres à nouveau du sujet, Des lois pour être humain, Ce qui est opérant dans la cure, c'est un livre qui a eu le prix Oedipe en 2009, avec trois autres psychanalystes, et Y a-t-il un directeur dans l'institution? Aujourd'hui, je pense que j'en ai oublié, parce qu'il y avait un premier livre que tu avais écrit sur la médecine. Aujourd'hui, il vient nous parler de son dernier livre, qui a été publié très récemment, la semaine dernière, je crois. La condition humaine n'est pas sans condition. Donc, c'est un entretien avec le philosophe Vincent Flamand. Je dois dire que Jean-Pierre Lebrun a la capacité de rendre accessible à tous des questions souvent difficiles, ce qui fait que ses livres ne sont pas réservés à un cercle d'initiés, ils s'adressent à tous. Je tiens aussi à préciser, avant de commencer, que tu ne cèdes pas sur tes questions et que tu cherches à t'expliquer depuis des années. Et dans ce dernier livre, tu poursuis ta question en cherchant à identifier les conséquences du contexte néolibéral sur l'économie psychique. Alors, nous sommes, dis-tu, dans un moment sans précédent qui implique une crise du désir. On pourrait aussi ajouter du transfert. Une crise qui touche le désir, c'est-à-dire ce qui nous rend humains, ce qui nous humanise. Et nous sommes en effet dans un temps où il y a eu substitution du discours de la science sur le discours de la religion, sur celui de la religion, ce qui a profondément modifié l'organisation sociale, l'organisation du lien social. Tu le montres en détail dans ton livre. En particulier, la question de la place d'exception, qui dans la religion était réservée à Dieu le Père, elle n'est plus reconnue, et dans la science, elle est discréditée, cette place d'exception. Ce n'est pas sans conséquence, puisque la place d'exception est nécessaire, pas celle de Dieu, bien sûr, mais celle qui est nécessaire à fonder l'acte. Dire comme ça. La structure, en conséquence, on peut dire que la structure pyramidale de l'organisation sociale est remplacée par une structure horizontale en réseau. Alors, toi, tu dis dans ton livre que les conséquences de ces changements sont radicales. Nos démocraties montrent à quel point il y a eu confusion, par exemple, entre l'égalitarisme et l'égalité, d'où un effacement, voire un refus de la différence des places. Tu le montres ça aussi très clairement. L'altérité n'est plus inscrite. On veut du consensuel, plus d'actes qui fondent, mais à force d'exiger de plus en plus d'égalité, tu notes que finalement, on risque d'ébranler le socle sur lequel la démocratie est assise. Donc, à partir des analyses détaillées de ces mutations, tu insistes de façon très claire et à différentes reprises dans ton ouvrage pour dire qu'il ne s'agit pas de revenir au monde d'hier, qu'il ne s'agit pas d'une nostalgie, mais de penser pour aujourd'hui les invariants qu'il faut respecter. Sans doute peut-on déjà là s'interroger sur l'invariant, car par exemple en mathématiques, l'invariant... On peut prendre pi, par exemple, le nombre pi, ou en physique, la vitesse de la lumière se fiche de ce qu'on les respecte ou non, et pour si mauvais. L'invariant anthropologique, lui, est-il sujet à accident? Alors tu insistes, à juste titre, pour montrer que nous sommes des êtres de langage et de désir. On ne désire qu'à partir du manque, hein, qui doit être symbolisé pour avoir son efficace. Le désir est lui-même un effet du langage, hein, c'est parce qu'on est des êtres parlants, puisque c'est le langage qui crée le manque, hein, d'abord en séparant irrémédiablement le mot de la chose. Le prix à payer pour être humain, tu en parles souvent, est de consentir à perdre l'objet comblant, hein, la mère en premier lieu, puis tout simplement consentir à manquer, à ne pas jouir, par exemple, immédiatement de tout ce qui pourrait nous faire croire que nous sommes comblés. Et bien sûr, il y a un second plan qui tient à l'incidence structurante du langage, dont dépend l'émergence même du sujet de l'inconscient. On peut remarquer avec toi qu'actuellement, l'enfant est introduit, tu le dis comme ça, très tôt, à ce refus de perdre de la jouissance. Et il y est introduit par le type d'environnement dans lequel il vit. On le gave, par exemple. Hein. Le néolibéralisme dans lequel nous baignons pousse à la jouissance de l'objet, vous le savez tous, hein, à la consommation, d'où les nombreuses addictions à l'objet. Hein, le consumérisme nous promet que demain, il n'y aura plus de manque, il n'y aura qu'à consommer, hein, il éradique le manque. Or, du fait d'entrer dans le langage, l'enfant subit une perte, hein, qui le divise. Le sujet n'aura accès à cette perte qu'à partir du manque, et c'est le temps de l'Œdipe, et c'est au temps de l'Œdipe, si vous voulez, que l'enfant peut symboliser le manque, ce qui lui donnera quelques chances d'assumer par la suite la perte constitutive de son être. Alors la société consumériste, qui s'acharne à ce que tout besoin soit comblé, qui crée même tous les jours de nouveaux objets, interdit, en bouchant le manque, tout accès à la symbolisation du manque, et elle prive ainsi le sujet de savoir sur son être. Le savoir sur ce qui cause le sujet devient illisible et sa jouissance indéchiffrable. On a des sujets qui sont piégés. Alors la question est de savoir si nous nous donnons les moyens de respecter ces invariants pour que se perpétue la condition humaine et sa transmission, ou si au contraire, à ne rien vouloir savoir, nous n'empêchons pas cette transmission. Enfin, c'est ta thèse en tout cas, hein, dans ton livre. Comment faire du reste pour inventer d'autres conditions du lien social ? Tu dis par exemple qu'aujourd'hui, pour faire face au réel, beaucoup d'enfants ou d'adolescents se retrouve avec une boîte à outils psychique très restreinte. J'aime bien cette expression. Une boîte à outils psychique très restreinte. Peu d'outils, donc, pour affronter le réel, puisque les moyens de vivre avec le manque ne leur ont pas été transmis. La transmission n'est plus opérante d'une génération à l'autre. Enfin, la transmission de ce qui est fondamental pour nous humaniser, disons, n'est plus opérante. Hein. Tu insistes sur les mouvements spécifiques aux conditions d'humanisation, en démontrant ce qui est nécessaire pour que la boule de chair qui vient à la vie s'humanise. Alors, je vais te laisser présenter ton livre plus avant, tes avancées surtout, et puis bon, ensuite, on discutera, je te poserai certaines questions, et la salle pourra aussi poser ses questions. Voilà.
Merci. Merci à la librairie Mola de m'accueillir, et à Isabelle Morin particulièrement d'avoir pris de son temps pour venir un peu échanger à propos de ce livre. Peut-être que je veux dire quelque chose de tout simple à propos de ce livre, c'est que j'ai eu l'impression que, étant donné les conditions actuelles, ça valait la peine de s'arrêter, donc de ne pas écrire un autre livre, mais de profiter d'échanger avec quelqu'un qui m'avait l'air d'être susceptible de m'aider, en posant des questions, à dire les choses encore plus simplement pour que... Effectivement, ça ne s'adresse pas qu'aux psychanalystes. Alors, c'est pas du tout parce que... Enfin, sans doute que oui, que j'aimerais bien avoir le plus de lecteurs possible, comme tout le monde, hein, c'est pas interdit. Mais l'objectif, je crois, surtout, c'est que je regrette un peu que les psychanalystes soient très, très mal partis aujourd'hui dans leur façon de se faire entendre du discours social. On peut quand même... J'écris ce livre avant Onfray, hein, donc il ne s'agit pas d'une réponse à Onfray, encore que, pour moi c'en est une, c'est la mienne en tout cas. Mais la question n'est pas celle d'Onfray, la question est celle de se dire qu'au fond, par exemple, quand on voit, je crois qu'il y avait dans Marianne, là, il y a quelques semaines, un bilan des intellectuels, on ne voit plus de psychanalystes, hein. du temps de Lacan, il y en avait quand même beaucoup. Il y avait Leclerc, il y avait plein de gens autour de lui. Il n'y avait pas que Lacan, il y avait, grâce à son enseignement, il y avait toute une... Bon, en revanche, je crois que la seule qu'on interpelle encore de temps en temps, c'est Julia Kristeva. Mais sinon, c'est rarissime que l'on voit encore interpeller un analyste. Il faut dire que si vous interpellez un analyste, vous vous mettez forcément aujourd'hui à mal avec le voisin, hein, avec l'analyste d'à côté. C'est un peu insupportable. Et je crains même, moi, que les psychanalystes sont en train de... Pour des raisons structurales, je crois. Pas du tout parce qu'ils sont plus mauvais que les autres, mais pour des raisons de structure, étant tellement pris dans la question de leur, de la singularité, ce qui veut aussi dire de leur singularité, hein, ils se trouvent donner l'exemple de vers où nous allons au niveau social. C'est-à-dire qu'on va avoir tellement d'individus, et on voit bien qu'il y a aujourd'hui un travail, et je ne dis pas ça de manière discréditante et péjorative, je dis ça parce que je pense que la démocratie dans son état actuel est une des... a comme valeur, je dirais, d'essayer de tenir compte le plus que possible, de donner de la chance au trajet singulier d'un chacun. Donc c'est vraiment très important. Le problème, c'est que ce trajet singulier reste corrélé au collectif. Il n'y a pas moyen de penser, à mon avis, un trajet singulier hors collectif. Ce n'est pas possible. Hein. N'empêche que ce n'est pas justement l'impression qu'on a. C'est que chacun tire de son côté, dans son sens, et qu'il y a quelque chose de l'embarras de refaire du 1 sous le prétexte que ça viendrait mettre à mal le trajet singulier d'un chacun. Je pense que si c'est ça, ça mène à une impasse. Là. Donc il va bien falloir trouver une manière de tempérer ce qui, je crois, n'est pas une... une conséquence d'un vœu particulier, qui est plutôt une conséquence d'un changement de perception de ce que c'est que le lien social et d'organisation, qui fait que du coup, c'est comme si on avait perdu une des rênes et qu'on était en train de tenir sur le droit d'un chacun, l'individu, la singularité, et qu'on avait perdu l'autre rêne qui était justement ce lien incontournable et irréductible au collectif. Alors c'est dans cet esprit-là que moi j'ai pris le temps un peu, parce que je le vis vraiment comme ça, parce que d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, l'éditeur m'avait un peu reproché comme ça de dire « mais il n'y a pas grand-chose de nouveau dans le livre », ce qui, je crois, est vrai, sauf peut-être la fin, où ça induit ce que j'ai en train en cours pour le moment, mais c'est ébauché, donc c'est pas très argumenté. En revanche, j'ai refait un peu un parcours qui est le mien, d'abord, bien sûr, un peu anecdotique parfois, pas trop j'espère, mais enfin suffisamment que pour donner envie de voir, pour en tout cas de faire entendre que tout ça est lié. Puisque moi je suis quand même parti de, je le dis dans le livre, mais je le reprends du constat en médecine, puisque j'ai écrit sur le tard, j'ai pas écrit d'emblée, donc je suis parti du constat que la médecine se transformait complètement à partir du fait qu'elle devenait une médecine scientifique de haut niveau. En gros, c'était ça le point de départ. Et que donc, il y avait un effet de déshumanisation qui n'était pas prévu au programme, ni qui n'était souhaité, bien au contraire. Mais l'effet était inéluctablement celui-là. Donc, ça méritait d'être pris en compte. Et à partir de là, je me suis aperçu que ça désignait toute la question du lien social, et que c'était beaucoup plus large que seulement la médecine. Et puis, j'ai continué à écrire autour de ces questions, et selon ce que tu as évoqué là. Donc, j'avoue... humblement et modestement, pas en tenant compte de tous les auteurs brillants que tu as cités, je ne les ai pas lus, je crois pas que j'ai lu Reich, par exemple, il y a des choses que je...
Pourtant, tu en as lu beaucoup.
Oui. Non, je suis parti de mes perceptions à moi, à quoi j'étais confronté, et de comment, à partir de là, j'ai essayé de rendre compte des difficultés dans lesquelles il me semble qu'on se trouvait. Et donc, ce livre-là a un peu cette fonction-là de faire une sorte de ponctuation, de scansion d'un parcours qui maintenant fait quand même une bonne dizaine d'années, d'écrit sur cette question. Mais c'est essentiellement une manière de dire les choses très simplement, le plus simplement qu'on peut, parce que quand même, c'est pas si simple que ça, il paraît, mais enfin bon, c'est quand même suffisamment accessible, je crois, pour, comme tu l'as dit, pour d'autres gens que les seuls psychanalystes. Simplement parce que je crois que, un, la société dans laquelle nous sommes pose d'énormes problèmes, qui peuvent être entendus de manière très riche, mais qu'il me semble qu'on a une tendance extrêmement forte à les dénier, à dénier la difficulté des conditions. Récemment encore, j'intervenais comme ça dans un cours de journée sur le, où il m'a semblé utile de dire qu'il était quand même caractéristique que les humains n'arrivent pas et n'arriveront jamais à éviter spontanément la violence. Hein ? Je suis tombé sur le reportage de FR3, je crois, lundi, sur l'ultraviolence en France. Je crois qu'il faut savoir que le règne animal est un règne où l'autorégulation de la violence existe. Donc les deux cerfs qui s'affrontent, au moment où le plus vieux, qui est un peu en train de perdre sa force, il émet des signaux qui fait entendre à l'autre qu'il ne sert à rien de le tuer, qu'il reconnaît qu'il ne sera plus le plus fort. Bon. Donc l'instinctualité animale, nous l'avons perdue. Nous avons gagné le langage, il n'y a pas de raison de nous en plaindre. Mais dans ce gain du langage, nous avons perdu quelque chose qui probablement était un mécanisme d'autorégulation. Donc il faut que nous-mêmes nous sécrétions des mécanismes pour parvenir à tempérer la violence, ou en tout cas à la laisser trouver un autre destin que de la pure et simple destruction mutuelle. C'est ce que nous avons créé grâce à des institutions et grâce au tout le travail de la culture. Et aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je commence d'ailleurs. Il me semble que la légitimité démocratique est souvent confondue avec une sorte d'exigence ou de croyance plutôt, ce que Pierre Manant, que je viens de lire, mais que je trouve passionnant, appelle la religion démocratique, avec la croyance que spontanément nous sommes égaux, que spontanément nous ne sommes pas racistes, que spontanément... Enfin, bon. Mais en fait, c'est d'une naïveté folle, parce que à force de lancer cette idée que spontanément ça devrait être comme ça, on vient déconnecter tout le travail de la culture extrêmement long qui a dû se faire pour que ce ne soit pas ça, précisément. Ou ce ne soit pas que ça, même si on a toujours affaire à ça. Donc ça me semblait utile, et à cause de cette difficulté propre dans laquelle le social se trouve aujourd'hui, et aussi parce que j'ai le sentiment, ou j'avais le sentiment, que les psychanalystes n'arrivent pas, à cause de problèmes qui leur sont propres, à force à se faire entendre simplement sur la pertinence de ce que la psychanalyse comme discipline vient dire du trajet de l'humanisation. Voilà, moi je pense que pour moi ça s'appelle la discipline, je ne l'appelle pas la science parce que le terme science est un peu dangereux, puisque ça a été une des questions de Lacan de savoir si la psychanalyse était une science ou pas, enfin bon, et que ma référence à l'enseignement de Lacan ne me permet donc pas de dire tout de suite la science, mais en tout cas une discipline qui étudie avec le plus de rigueur possible ce qui est exigé de l'humanisation. En quoi est-ce que l'humanisation est un travail collectif et collectif venant en aide à chaque sujet, enfant, bon, via évidemment les parents, via la société, etc. Eh bien, je trouve que dans ce contexte-là, nous sommes en difficulté. Notre société est en difficulté parce que la perversion libérale, la perversion du libéralisme en néolibéralisme fait littéralement sauter une série de repères qui servent à la construction de la subjectivité. Et donc, ça met à mal le processus même d'humanisation. Et je trouve que dans ce... Alors, on en a plein d'indices que j'essaie de développer à droite et à gauche dans le livre, on pourra y revenir éventuellement, mais... Je trouve que c'est vraiment une grande question qui ne demande pas une réponse de type seulement politique, parce que les politiques sont mis à mal par ce changement, aussi bien, à mon avis, que tout le monde, mais qui demande quand même une sorte de position un peu de recul qui permette de voir que nous sommes tous en difficulté. Nous sommes comme dans une sorte de... comment on appelle ça de On va de plus en plus vite dans l'évolution, mais la vitesse avec laquelle on va, il y a une sorte d'exponentialité qui va faire que, en fin de compte, la vitesse d'évolution pourrait être presque destructrice de ce qu'elle a construit, de ce qui a été jusqu'à présent construit. Donc je trouve qu'on n'est pas au moindre des moments, et que par rapport à ça, personnellement, j'ai toujours eu le sentiment que je devais être comme l'un ou l'autre me renvoie d'ailleurs, que je dois être un peu médecin, rester médecin, et que je trouve que la première chose à faire, c'est de ne pas nuire quand on est médecin. C'est déjà très très bien. La seconde, c'est de faire un bon diagnostic. Alors c'est un diagnostic compliqué, c'est un diagnostic complexe. On ne peut pas simplifier les choses en disant c'est la montée de l'individualisme, c'est ceci. Tout ça, ce n'est pas faux, mais il faut, je crois, prendre une vue d'ensemble. Alors je sais que dans les autres livres que j'avais écrits, on en a fait souvent des, tu l'as évoqué gentiment, soit des sortes de regrets nostalgiques de la modalité d'hier. Comme je dis, moi je ne comprends pas ce type d'argument, parce que c'est pas parce que je dis que le charbon, il n'y en a plus, que d'office je suis nostalgique du charbon. Hein. Donc quand même, voilà, c'est comme ça, c'est un moyen qu'on nous n'avons plus. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour en trouver un autre, si tant est que ce soit de ça qu'il s'agit. En plus de cela, on a aussi confondu complètement, dans ce que j'avais écrit, encore que ce soit normal de le confondre, je trouve que Michel Thor, là-dessus, qui est un de mes pourfendeurs, avait donc critiqué beaucoup l'appel au père comme étant... mais je pense que c'est vrai que c'est sa critique qui a permis pour moi de, par exemple, distinguer le patriarcat de la fonction paternelle, ce qu'au départ, dans Le Monde sans limite, je n'avais pas fait. Pourquoi ? Mais parce que il y a 15 ans d'ici, j'étais parti avec les moyens que j'avais à disposition à l'époque pour comprendre de quoi il s'agit. Et donc ça demande d'affiner sans arrêt les choses, un peu mieux les saisir en jeu. Et voilà, c'est un peu ce trajet-là qui est dans ce livre. Je vais un peu dire, un peu raconté, pas tout en masse comme ça, mais qui a de conséquences, pour moi-même, inattendues. Parce que plus j'avance pour le moment, plus je trouve qu'il y a deux choses qui me questionnent beaucoup. D'abord, c'est l'impression qu'on a affaire déjà à une troisième génération, c'est-à-dire qu'au fond, qu'on a affaire aujourd'hui à des enfants dont les parents ont été eux-mêmes les enfants de ceux qui ont été les premiers troublés par la mutation sociale. Donc on est déjà une troisième génération. Ce qui a une conséquence extrêmement importante, et qui est ceci, c'est que le propre de la troisième génération, c'est qu'elle en arrive à ne plus savoir que la génération qui la précède était en difficulté. Si vous voulez, à la première génération, il y a une difficulté, la seconde se construit à partir de la difficulté de la première, et la troisième ne sait plus qu'il y a eu difficulté. Bon. Et donc ça change la donne. Il y a un film récent que je trouve à cet égard très très intéressant, c'est le film Canine, d'un réalisateur grec peu connu, où c'est une famille qui s'arrange pour essayer que... une famille nucléaire, conjugale, des parents et trois enfants, qui fait tout pour que les enfants n'aient pas accès au monde extérieur. Ça, rien que ça, je viens d'un congrès sur la famille où je suis intervenu tout à l'heure, rien que ce changement de la famille qui hier avait la tâche de préparer les enfants à la vie dans le social, et aujourd'hui on dirait qu'elle s'avère surtout pour protéger l'enfant du social, rien que ça, c'est un renversement assez énorme, hein. Bon, ça veut quand même dire quelque chose. Eh bien, dans ce film, ça met en scène une famille qui protège ses enfants du social. Alors, moi, ce qui me frappe dans le film, ça produit plein de symptômes particuliers, mais il y en a un que ça produit qui est terrible, c'est que les enfants ignorent qu'ils sont à l'abri du social. Et donc, tout à coup, toute leur façon de faire, déconnectée de ce que Freud appellerait la vie hostile, la vie à la confrontation à l'autre, la vie conflictuelle, les met dans une très drôle de position. Bon, c'est-à-dire qu'au fond, le pire des symptômes, c'est celui que vous ignorez quand même en plus. Hein. Eh bien, je trouve qu'on a affaire à ça déjà aujourd'hui. On voit des sujets, alors peut-être pas encore nécessairement des sujets en analyse, mais moi je participe beaucoup, ça m'intéresse beaucoup d'avoir des contacts avec des gens qui font du travail au quotidien, qui reçoivent de la clinique dans les centres. Et voilà. Je trouve qu'on a beaucoup d'échos d'enfants dont les parents sont eux-mêmes comme ils viennent amener une difficulté, mais ils n'ont absolument pas le sens que ça les concerne. On vient demander d'être débarrassé de cet hyperkinétisme, comme on l'appelle aujourd'hui. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi du côté du travail, du discours social aujourd'hui, de sécréter sans arrêt des termes nouveaux comme autorité parentale, compétence parentale, hyperkinétisme, enfin bon, j'en passe, il ne me vient pas, ou de travailler tout le temps par des sigles, des TMS, des travailleurs médico-sociaux, des bon, enfin, bon, qu'est-ce que ça veut dire d'une société qui, on dirait, d'un côté, déconnecte le travail de subjectivation, et de l'autre, produit un discours qui permet de rendre compte du symptôme produit par cette désubjectivation. Donc, par exemple, un enfant turbulaire était un enfant turbulent. Bon Dieu, madame, que votre enfant est turbulent. Bon, un enfant nerveux, hyper nerveux. Alors, vous voyez bien comment on passait d'un enfant turbulent à un enfant hyperkinétique, la subjectivation de l'enfant, lui, comme s'est déconnecté. Bon. Et donc, du coup, ça devient... À quoi, évidemment, on a une réponse hyperkinétique, on a une réponse Ritaline, bon, etc. Donc, on voit bien... Mais une réponse qui est aussi un produit du marché. Hein. Donc, vous voyez comment tout ça est entretenu. Il y a là quelque chose que je trouve qu'on doit d'urgence essayer de faire advenir, de voir comment est-ce que, à notre insu, peut-être, sans nécessairement trouver qu'il y a là un manichéisme, quelqu'un qui veut gérer tout ça de manière aussi inconvenue, mais je pense qu'il faut quand même qu'on déplie les mécanismes par lesquels l'évolution du libéralisme au néolibéralisme est en train littéralement de changer la donne de l'environnement social, de ne plus fournir les moyens pour que l'humanisation puisse se réaliser, et donc du coup de produire des symptômes un peu différents pour lesquels on peut alors inventer des ripostes, mais qui sont à des symptômes qui ne sont pas des symptômes, en fait, qui sont de pures et simples difficultés de conduite, anomalies de fonctionnement, qu'il y a moyen de résoudre. Voilà, cette mécanique-là me semble demander vraiment... moi, par exemple, ça me... Je ne sais pas si vous... Enfin, vous devez sûrement le savoir, mais aujourd'hui, les psys... Je parle des psys au terme tout à fait général, je ne parle pas que des psychanalystes, mais on en a à tous les coins de rue. Des institutions qui s'occupent de difficultés, vous avez... l'aide à la compétence maternelle, l'aide à la compétence paternelle, l'aide à la compétence fraternelle, enfin, je ne sais pas, mais il y a des services pour tout, et on a l'impression qu'on est en train de monter toute une organisation sociale dont le seul objectif finit par être d'obtenir par du supplément de présence ce qui ne peut être obtenu que par de l'absence, en fait. Ce que nous sommes bien placés, les psychanalystes, pour savoir que ça ne s'obtient que par de la reconnaissance de l'absence. C'est un peu comme si les parents d'aujourd'hui, je fais une analogie là, ayant appris, en tenant leur enfant pour traverser la rue, finissent par aller jusqu'à la salle d'examen pour passer l'examen à la place de l'enfant pour être sûr que comme ça, il ne va pas être en problème. Enfin, donc on met des empêchements ou de la surprésence partout, parce que l'empêchement exige, contrairement à l'introjection de l'interdit, l'empêchement exige la présence. Pour empêcher le bras d'Abraham de frapper, il faut la présence de l'ange. Donc si vous restez au niveau de l'empêchement, il faut toujours de la présence. Et donc finalement, c'est très curieux, parce qu'on en arrive à une sorte d'effet d'agglutination, d'effet de massification, qui n'est même plus la foule telle que la décrivait Freud, qui est un autre processus pour lequel, je trouve, nous n'avons pas beaucoup d'éléments d'élaboration, et qui quand même va sans aucun doute déterminer et des difficultés demain dans les conduites, dans les comportements, dans la manière de vivre des gens, et aussi, alors bien sûr, des difficultés dans comment les aider, parce que la question n'est pas la même. C'est pas pour rien que tu parlais de crise du transfert, pas seulement crise du désir, parce qu'enfin, le transfert, c'est assez simple à comprendre. Le transfert, c'est quelque chose qui est inhérent, manifestement, à notre statut d'être humain, étant donné que chaque enfant a été construit à partir du discours de l'autre, à savoir de ses parents, ou des premiers autres qui l'entouraient en tout cas, eh bien, il y a là une sorte de sécrétion quasi logique dans la vie de la croyance qu'il y a un autre qui sait ce qui est pour moi, ce qui est bon pour moi, ce qui est la réponse à ma question. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dispositif du transfert. Mais si vous allez chez l'enfant tout petit, C'est pas tout à fait ça. C'est aussi un enfant qui se roule par terre parce qu'il veut qu'on... tout le monde connaît ça, quoi, les petits enfants qui sont pas du tout contents et qui se roulent par terre pour obtenir quelque chose. Autrement dit, ce n'est plus là un sujet supposé savoir, d'accord, mais c'est un sujet supposé pouvoir intervenir à ma place pour réguler mon propre univers pulsionnel. Ce sont des choses qui sont qui introduisent. C'est comme ça, par exemple, que j'explique qu'aujourd'hui on n'a pas tellement de demandes, en tout cas dans ces postes avancés. Où on écoute les difficultés des gens les plus quotidiennes. Donc je ne dis pas des travaux de cure ni du travail de thérapie, je parle simplement de venir dire ce qui ne va pas. On voit bien qu'à cet endroit-là, il y a de plus en plus de personnes qui viennent comme, non pas faire une demande, mais qui viennent faire appel. Comme s'ils appellent, ils veulent que quelqu'un les aide et ils sont dans l'incapacité d'élaborer quelque chose. Parce que c'est comme si ça avait été déconnecté de leur capacité. Alors ça demande, à mon avis, des petites modifications de manière de les entendre, de percevoir la difficulté dans laquelle ils se trouvent. Et ce n'est pas pour rien non plus dans le fait que, je pense encore à ça parce que ça m'a l'air assez évident, à quel point un jeune, par exemple, s'il est comme ça laissé un peu à l'abandon, ne va pas trouver en lui des ressources pour arriver à réussir quelque chose. Je trouve que ça, c'est très grave, parce que pour supporter de rater, il faut quand même réussir un peu. Il faut un petit peu réussir quand même certaines choses, et puis petit à petit, ben, vous supportez de rater, et ça avance, ça s'élabore, ça se construit, et ça va de mieux en mieux. Mais ces jeunes qu'on voit aujourd'hui, par exemple, qui remettent des feuilles blanches à un examen, qui sont dans l'incapacité... Ils sont très bien capables, par exemple, c'est un symptôme que l'on voit de plus en plus dans les universités, semble-t-il, à savoir des jeunes qui sont tout à fait capables de répondre à ce qui est attendu d'eux quand ils doivent réénoncer ce qui leur a déjà été énoncé, mais qui sont quasi dans l'incapacité massive d'assumer une parole qui leur est propre. Bon. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, c'est même pas ça, donc on n'est pas à faire à quelqu'un qui serait dans l'incapacité presque équivalente à une folie d'assumer cette position. Non, c'est parce que c'est comme s'il y a un travail qui a été trop longtemps laissé à l'abandon, ils n'ont pas dû faire ce boulot, et puis tout à coup, au moment où il s'agit de le faire, de telle sorte qu'il soit immédiatement suivi d'une sorte de sanction, dans le sens bon du terme, c'est-à-dire que ça va compter, eh bien, c'est quelque chose qui les fait vraiment, qui les met dans un état d'angoisse tout à fait indépassable. Mais ça se répète 3-4 fois, ça finit par évidemment faire complètement rater les dispositions psychiques du sujet, qui par ailleurs les a. Il est en capacité. Il est même parfois plus intelligent que la moyenne, on voit bien ça, mais là, en même temps, il est en difficulté. Donc on a affaire à toute une série de problèmes pareils, que j'ai essayé d'aborder là, un peu comme ça venait. Voilà, donc c'est un livre un peu particulier parce qu'il a surtout l'objectif de montrer, non pas de faire une défense de la psychanalyse, parce que je crois pas qu'on en a beaucoup besoin malgré tout ce qui se passe à son égard, mais de venir pour moi dire comment moi ça m'a été très très utile pour, en tenant compte de ce que tu as relevé comme des invariants, des choses quand même auxquelles on est, au fond nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux qui parlons. Ça se paye d'un prix dont il faut régler la valeur. On ne peut pas faire autrement. Parler, ça veut dire faire venir ici ce qui n'est pas ici. Ça veut dire rendre présent ce qui est absent. Mais ça veut aussi dire que tout rapport de présence que j'ai à l'autre est frappé déjà par de l'absence. Et donc ça va déterminer quelque chose de cette particularité qui est l'ordre humain, à savoir que vont en faire partie de manière irréductible, le non-rapport, l'impossibilité, l'incapacité de tout résoudre, l'insatisfaction, la fin de la satisfaction, de toute satisfaction absolue, enfin, toute une série de conséquences dont nous avons l'impression, j'ai l'impression plutôt, que de manière éminemment paradoxale, là où hier le discours social aussi l'assumait, aujourd'hui on nous fait croire qu'il y a moyen de ne pas devoir assumer ça. Moyennant quoi, on se trouve dans une drôle de position. Puisque là où avant le social venait rappeler et même soutenir du coup, par exemple, les parents à tenir une place qui permettait à leurs enfants de, entre guillemets, pour le dire simplement, grandir, voilà qu'on les laisse un peu à l'abandon et on risque de laisser du coup à l'abandon les enfants de trouver l'appui dont ils ont besoin pour grandir eux aussi, ce qui n'est pas quand même ce que nous souhaitons. Voilà. Voilà un peu les questions comme ça qui me... Je fais un petit topo, un petit exemple comme ça.
Bon, je peux te oui, poser oui. Une ou deux questions avant de peut-être de donner la parole à la salle. Évidemment, quand on lit ton livre, les analyses que tu fais de la société, des difficultés qu'on rencontre actuellement sont très convaincantes. Et alors, une question. Alors d'abord, est-ce que pour toi, les invariants anthropologiques, comme tu dis, c'est équivalent à, pour nous, dans la psychanalyse, les éléments de structure?
Oui, hein, je crois.
Grosso modo. Oui, bon. Oui. Donc, comment on peut articuler ces invariants, la transmission de ces invariants, ou plutôt le défaut de transmission de ces invariants, avec leurs conséquences sur les sujets, avec le symptôme? Parce que le symptôme, bon, c'est quand même le signe d'une subversion du sujet. Hein, c'est-à-dire que le fait qu'il refuse de se laisser écraser par la jouissance de l'autre, et il invente quelque chose, enfin, c'est un peu une invention, un symptôme, il invente quelque chose pour justement pouvoir, pour que sa singularité soit préservée. Donc comment on peut arriver à articuler les deux? C'est assez difficile, parce que finalement, le symptôme, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui sauve chacun. Ah, bien oui, sûr, mais... si on retient que la version souffrance symptomatique, c'est autre chose. Hein, je ne parle pas du symptomatique, hein, je parle du symptôme du sujet. Hein, alors, comment on pourrait arriver à... Parce qu'on dit, actuellement, on voit des symptômes fleurir, comme les addictions. Il y a de plus en plus d'addictions à l'objet. Bon, des choses comme ça. Effectivement, ce qu'on appelle l'hyperactivité, comme tu dis, même si c'est inventé, enfin si c'est créé par les laboratoires pharmaceutiques, etc. Mais le symptôme, quand on fait une analyse, qu'on arrive à dégager hein, quelque chose de ce radical de la singularité propre à chaque sujet, justement, c'est un mode d'invention qui fait échec, enfin qui doit faire parade à ce défaut de transmission des invariants. C'est que le sujet, il a trouvé une solution, lui.
Oui, mais donc tu donnes l'articulation, d'une certaine manière.
Oui, mais ça pose la question justement de que faire, quelles sont les conditions pour que chaque sujet arrive à inventer sa solution.
Mais précisément, je crois que c'est ça qui, moi, me semble... Parce que j'ai utilisé dans un des autres livres, je crois que c'est dans le livre avec Mélement que je réponds ça, je réponds aujourd'hui, c'est pas du symptôme, c'est de l'asymptôme. L'apostrophe alpha privatif. Et justement, ce n'est pas du symptôme, bien souvent, aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas construit dans un rapport à l'autre, précisément. Parce que, pour moi, l'hyperkinétisme, ce n'est pas un symptôme. Même l'addiction, dans la mesure où... Alors, le fait, par contre, que si on arrive à redonner à ce sujet, par exemple, que l'obésité ou l'anorexie deviennent des manières de faire objection à l'emprise de l'autre, là, du coup, ça redonne un statut de symptôme. Hein? Mais je ne suis peut-être pas tout à fait au niveau de ta question.
Si.
Bon, parce que, or, je pense que le problème, c'est que en déconnectant de ces invariants, on ne laisse plus exister le symptôme comme objection du sujet, justement. On s'arrange pour que ça soit comme une absorption, un engloutissement dans quelque chose. Or, c'est ça que les invariants, pour moi, c'est vrai, ce sont des traits de structure. Ce que j'appelle un invariant anthropologique, finalement, moi, je n'en connais qu'un. Au total, je n'en connais qu'un. Je ne crois pas que je le dis aussi clairement. L'interdit de l'inceste. C'est l'interdit de l'inceste entendu au sens psychanalytique, pas du tout au sens juridique ou au sens de plein d'autres sens qu'on peut lui donner. L'interdit de l'inceste au sens de « tu ne resteras pas assujetti à l'autre ». Tu dois te décoller, tu dois te décaler, te décoller. Bon, je crois que c'est le seul invariant. Et le fait même du langage, c'est ça. Donc, on dit autrement, c'est le langage. Bon, je crois que c'est le seul invariant. Et à ce titre-là, voilà ce que la structure, les enjeux de structure nous imposent. On n'y coupe pas. Donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Sauf que, par exemple, en laissant, comment dire ça, il y a toujours deux faces, quoi, si on veut. Et à la face, je me soustrais à l'absorption de l'autre, mais il y a quand même une face où je suis complètement englouti dans l'autre à tel point que je ne sais pas émerger comme sujet. Mmh. Donc ça, c'est quand même la face qui aujourd'hui risque d'être amplifiée. C'est là-dessus d'ailleurs que j'essaie d'avancer un tout petit peu aujourd'hui, à partir, ça se trouve dans la fin du bouquin ici, mais ce sera le livre suivant, si j'espère. C'est comment le fait aujourd'hui de qu'il y ait eu une sorte de diminution, allons-y, de la... Au fond, je pense que le pacte d'humanité est un peu en difficulté aujourd'hui. Le pacte d'humanité, je veux dire par là, la dimension symbolique reconnue comme étant la propriété, la fonction, ce en quoi nous fonctionnons. Tous, il n'y a personne qui est propriétaire de ça, évidemment. Hein. C'est quelque chose qui est au-dessus de nos têtes. Ce serait chez le grand autre, chez Lacan, enfin, ce serait des concepts pareils. Donc c'est quelque chose qui nous... Qui, voilà, nous, ici d'ailleurs, pour le moment, nous sommes en train de nous référer à un pacte d'humanité dans la mesure où la symbolique de la langue française nous permet d'échanger, par exemple. Donc ça fait partie des choses. Mais je pense que ce pacte-là, on voit bien qu'il ne va plus de soi. On entend bien aujourd'hui que... Mais enfin, des choses parfois complètement... tellement évidentes... se désévidencie. Parfois, on est parfois surpris de ce que... Enfin, il n'a pas compris que c'était, ça allait de soi. Bon, mais non, ça ne va plus de soi. Non. Or, ça, c'est quelque chose qui a un effet, à mon avis, vu que la fonction paternelle telle qu'elle opérait hier ne fonctionne plus avec la même prégnance, que le symbolique social a l'air de se détourner de cette exigence de contraindre et en même temps d'aider du coup les sujets à s'y retrouver, il y a comme quelque chose que l'on constate de plus en plus, c'est que l'enfant peut rester ou peut n'être que l'enfant de la mère, pour aller vite. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en ne pouvant être l'enfant que de la mère, ce que d'ailleurs Lacan, entre parenthèses, avait déjà ouvert, ça change quelque chose, parce que là où l'enfant... dans la mesure où il est l'enfant des parents, ou l'enfant huitième merveille du monde des parents, j'ai envie de dire, il prenait sur lui un travail actif d'essayer de rester à cette place, quitte à devoir d'ailleurs aussi faire le travail d'y renoncer en fin de compte et d'en faire le deuil. Tandis que s'il est l'enfant de la mère, la seule mère, au fond, il n'a plus de travail à faire. Et donc, il n'a plus d'activité à faire pour rester à cette place. Il l'a d'emblée. Il est là d'emblée, puisqu'il protège la mère de la perte.
Il faut qu'il s'en déloge.
Ah oui, justement. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est très difficile lorsque il n'a pas appris le travail de... Il s'en est déjà délogé si c'est un enfant phallus, on va dire comme ça. Il s'en est déjà délogé, puisqu'à ce moment-là, il va faire le travail pour le rester, mais ça va lui demander du boulot. Tandis qu'ici, il est béatement là. Donc, du coup, je pense que c'est lui donner du plomb dans l'aile à ce travail d'activation d'un désir propre à lui. Donc, pour lui, pour se déloger, pour se désincestualiser, ou pour se désidérer, pour reprendre l'étymologie du mot désir, eh bien, ce sera d'autant plus difficile. Ce sera vraiment un travail. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la clinique, on doit tenir compte de ça. On doit tenir compte de ça, de ce que certains sont vraiment... en difficulté avec cette position.
Oui, alors, toi, tu prends le cas de l'enfant qui est resté... qui est l'enfant de la mère.
Seulement de la mère.
L'enfant de la mère. Et je pensais, par rapport à ce que tu dis sur la différence entre le patriarcat et la fonction paternelle, justement, actuellement, la fonction paternelle est en difficulté parce qu'elle ne s'appuie plus sur le patriarcat tel qu'elle s'appuyait il y a quelques siècles. Moi, il me semble, alors je vais le dire autrement, mais je pense que c'est exactement la même chose, c'est la question du père réel. Bon, oui. Lacan, il a parlé du père réel, c'est pas le père de la réalité. Hein. Le père réel, c'est celui qui assume d'être l'agent de la castration. C'est-à-dire celui qui va dire non et qui va permettre à l'enfant de symboliser le manque, si vous voulez, hein, justement, au temps de l'Oedipe. Donc ça, c'est le père réel. Donc, il assume d'être l'agent de la castration. Bon. Et ça ne fonctionne plus trop bien dans nos sociétés. Bon. Et c'est L'autre, c'est justement parce que le père réel ne fonctionne pas que l'enfant reste l'enfant de la mère.
Oui, oui.
Hein?
Oui.
Reste l'enfant de la mère.
D'accord.
C'est cette fonction du père réel.
Oui.
Et alors je trouve que ça aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est à corréler avec quelque chose dont tu parles beaucoup dans ton livre, qui est la place d'exception. Tu dis,
ah oui,
il n'y a plus de place d'exception.
Absolument.
Alors, le père réel, il peut dire non en éteignant les ordinateurs, il peut dire non au fait qu'un enfant, par exemple, mange toute la journée, ou au fait qu'un enfant... C'est mettre des limites, c'est celui qui va mettre des limites, qui va imposer des limites. Hein, et maintenant, il y a quand même beaucoup de pères qui ne veulent pas assumer cette place-là, d'imposer des limites, parce que c'est dur, parce que... Bon,
parce qu'il faut, je crois, comme homme ou comme... qui veut jouer le rôle de... la tâche de père, la fonction paternelle, ça l'aide qu'il y ait une légitimité à faire ça. C'est-à-dire que ça n'est pas pour sa jouissance propre qu'il veut faire ça.
Non.
Or, aujourd'hui, en vous obligeant ou en obligeant les sujets à aller chercher dans leurs ressources propres de quoi faire ça, il y a une difficulté. Je pense qu'il y a beaucoup de... C'est ça que tu lis à la place d'exception, à juste titre... Occuper la place d'exception aujourd'hui est comme un peu discrédité dans l'ensemble du discours social parce que c'est une place inégalitaire, donc c'est une place de jouissance illicite. Bon. Je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé dans ce livre à parler de la conjonction de la légitimité démocratique et de la légitimité des lois du langage. Il y a deux choses là qui vont pas ensemble. L'égalité des conditions préconisée par le mouvement démocratique est tout à fait quelque chose d'important, à mon avis, et d'essentiel, dont d'ailleurs nous retrouvons des choses tout à fait à l'œuvre lorsque, par exemple, on a décidé d'en finir avec l'autorité paternelle et de mettre l'autorité parentale, ce que j'ai encore dit cet après-midi. L'autorité parentale, c'est né de ce qu'on ne veut plus que les mères ou soient les enfants des hommes. Le droit lui-même est subverti par cette transformation sociale. C'est ça le problème, c'est que le droit hier était dans la position d'être un grand tiers. Mais aujourd'hui, le grand tiers, il a chuté. Donc le droit lui-même se transforme en une sorte de machine à produire du tiers. Bon. D'où d'ailleurs qu'on sollicite les juristes tout le temps. Et qu'eux-mêmes se sentent, et ils vous disent, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas repris en charge par le droit, on dit, ah, ça c'est un vide juridique. Bon, mais pour ceux qui ont quand même un peu lu Le Gendre, bien qu'il soit critiquable à certains points de vue, justement, du patriarcat, il est au moins un de ceux qui a fait remarquer que le propre du droit, c'est de fonctionner sur un vide juridique. C'est-à-dire que le droit est vraiment... On n'a pas à évacuer ce vide juridique, de nouveau. Or, aujourd'hui, on fait appel aux juridictions de manière de plus en plus rapprochée, et le droit est en train de suivre une inflation. Il vient mettre des règles partout, là où, effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose d'une loi, comme vous le dites d'ailleurs très bien, qui ne fonctionne plus.
Est-ce que tu n'es pas étonné de la disparition dans les nomenclatures de la débilité, alors que nos sociétés débilisent de plus en plus.
Il y a beaucoup de choses qui disparaissent dans la nomenclature. L'hystérie aussi disparaît dans
la
nomenclature.
Non, mais là, ça disparaît complètement. Dans le DSM, il y a encore troubles hystériques. Tu ne vas plus avoir... Bon, on le sait, il n'y a plus... Mais il n'y a plus la notion de psychose, il n'y a plus... Bon, tout est transformé en trouble, mais tu as au moins obsessionnel, hystérique, ça reste encore, même si ce n'est pas en termes de structure. Ça va devenir dans des troubles. Tandis que la débilité, alors que la société dans laquelle on est, débilise de plus en plus. C'est-à-dire donne pas les moyens de penser, ce que tu
non,
dis.
Non, ça ne donne pas les moyens de penser, ça c'est certain.
Ça ne donne pas les moyens de penser.
Oui, oui, oui. Mais peut-être que la débilité n'est pas l'absence de moyens de penser. Un enfant débile, c'est peut-être...
Je pense à la débilité névrotique. Hein,
oui,
je ne pense,
oui,
pense pas à la débilité...
Il va falloir qu'on arrête.
Bon, c'est dommage, je suis désolé, il faut qu'on arrête.